Ça fait 7 jours que vous êtes quitté au ponton. Qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire?
Qu'est-ce qu'on a envie de se dire? Plein de choses, on se l'est déjà un peu dit tout à l'heure, avec du monde ensemble, mais enfin, moi, c'est bravo et merci, si en très simple, parce que je pense que ça résume bien la chose, parce qu'on s'est éclaté, que c'était chouette, c'était dur, ça a été difficile, mais c'est ça qu'on va chercher, sinon on fait pas de la course large. Et que voilà, c'était vraiment top. Et après, assez classiquement, on pourrait papoter un peu plus longtemps et refaire la régate, voir les endroits, ce qui s'est passé, pour qu'on allait vite à d'autres moments. Parce que moi, il y a des moments où je me disais, mais c'est pas possible. Là. J'ai quand même eu plein de grains assez compliqués les deux derniers jours. Je me dis, mais il va à 30 nœuds tout le temps. Moi, il y a des moments où je me disais, avec 100 folles, c'est sûr que je peux pas aller aussi vite. Mais bon, il y a quand j'ai des molles quand même à 12 nœuds sur une demi-heure. Alors, soit il va à 45 nœuds, et le coup d'après, il va à 15 nœuds. Mais j'étais assez surpris. Et donc, ouais, on peut se refaire un peu la régate, mais ça, on le fera dans les jours qui viennent.
C'est vrai que le trajet était un trajet vraiment difficile. Même quand on croyait avoir du beau temps, on était dans l'Alizé. C'était du temps, on avait des passages de gras assez brutaux. Et en multicoque, il n'y a rien de pire. Hein, quand vous avez le vent qui passe du simple au double, ça ne simplifie pas vraiment le choix des voiles. Il faut choquer complètement tout. Le bateau lève brutalement. Enfin, c'est quand même un peu sportif. Bon, comme dit François, c'est ce qu'on vient chercher. Mais c'est vrai qu'on a eu une dose assez importante de moments vraiment délicats en fait, à gérer.
Mmh. Oui, c'est sûr.
D'autres questions? Jacques Guyader.
Francis, dès le départ, dans ta stratégie, on t'a vu essayer de coller aux machines qui avaient devant toi. Il y avait trois bateaux qui, a priori, étaient donné plus rapide, plus puissant, et tu as adopté la même stratégie en leur collant un peu aux fesses. Qu'est-ce qui t'a décidé à utiliser cette stratégie plutôt que d'essayer de te démarquer en disant je peux pas jouer dans cette cour a priori en vitesse pure et je tente autre chose?
Tu me parlais de la cohésion entre le bateau et le marin, non? C'est ça la question?
Non, c'est pas ça, c'est... La stratégie de coller un peu...
Pour tout expliquer, déjà, je n'entends pas très bien, mais alors là, toute la semaine, on avait mis des safrans qui sifflaient énormément, et j'avais des sifflements, mais à 100 décibels toute la semaine, ce qui fait que je suis complètement dézingué au niveau auditif. Là, c'était incroyable, le bateau, il était en vibration et en sifflement tout le temps, et c'est vrai que j'entends vraiment plus grand-chose depuis, ouais. Ça ne s'est pas arrangé. Ouais. En fait, y avait quand même deux routes qui se dessinaient, on pourrait dire. Je me suis retrouvé avec François parce que c'était une route qui était rapide, qui était une route aussi qui préservait un peu les bateaux. Et je pense que quand on a des bateaux comme ça, on n'a pas envie de les casser. Et donc on a dû se retrouver un petit peu sur nos choix de route comme ça, à vouloir chercher assez vite le sud pour avoir des mers... qu'au lieu d'être de l'ordre de 7 mètres, était de l'ordre de 4-5 mètres. Donc il y avait une certaine logique aussi. C'était pas suivre les autres bateaux, c'était plus une stratégie d'aller à la fois vite et de préserver le bateau, je dirais.
Et il n'y avait pas 150 options en plus. Hein. C'était quand même assez fermé, parce que des fois il y a des courses où il y a quand même, tu as vraiment des choix hyper larges. Là, nous, on n'avait pas vraiment le choix que d'aller dans le sud. Alors après, il y avait des petites variantes dans le sud. On pouvait attaquer un peu plus la dépression. Mais au final, les différences, elles n'étaient pas énormes. Donc on se retrouvait quand même plus ou moins obligé de passer dessous et d'aller où on est allé. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'endroit ou de moment où on pouvait faire des gros écarts latéraux entre les bateaux. Quoi. Et je pense que si Sodebo et Gitana n'avaient pas eu de problème, on aurait probablement été tous les quatre ensemble. Hein.
Oui, je pense que le seul qui a fait une route un petit peu nord, c'est Armel. Et bon, c'était peut-être plus parce qu'il a dû faire escale, il se retrouvait dans un système météo un petit peu différent et il voulait repartir sur une stratégie de victoire. Et donc il s'est lancé sur un trajet, effectivement, dans une partie de l'Atlantique où il y avait des creux qui étaient difficiles à gérer pour un multicoque. Hein, c'est des bateaux, je dirais pas que les multicoques, les monocoques du Vendée Globe, ils font des tours pour le Vendée Globe sans aucun problème. on les met sur un départ de route du Rhum ou sur un départ avec des vents forts. Auprès, il y a beaucoup de casse aussi. Hein.
Oui, bonsoir et bravo à tous les deux. Je voulais savoir, moi, combien de temps vous aviez passé à bricoler justement sur vos bateaux.
Toi, peut-être. Non, ouais. Moi, ça va être un peu. Combien de temps t'as bricolé sur le. Combien de temps t'as bricolé sur les bateaux?
Vous voulez dire juste pendant la durée de la course ou en préparation avant?
Ah non, pendant la course.
Ben, avant la route du Rhum, c'est pratiquement un an de travail. On est une toute petite équipe, hein. on est quatre personnes. Et je participe aussi, moins bien que Corentin, Pic, Antoine et David qui sont plus compétents et plus spécialisés. Mais bon, ça fait beaucoup de travail pour un bateau de cette taille-là. Hein. Je crois que les équipes concurrentes sont beaucoup plus étoffées. Et on est obligé de s'engager beaucoup plus dans ce qu'on fait, en fait.
Et pendant la course.
Et pendant la course même, j'ai pratiquement pas bricolé. J'ai eu une nuit à faire un peu d'électronique parce qu'avec les chocs, avaient été tellement violents. Il y a un capteur les capteurs d'angle de pilote qui s'étaient décrochés. Et donc, j'ai dû barrer pas mal et avant de trouver le problème et de le réparer. Mais à part ça, qui était vraiment un problème dû à des chocs hyper violents, j'ai cassé deux bloqueurs de dérive. Voilà, c'est pas grand-chose hein, par rapport aux autres bateaux, dont François est le mieux loti encore.
Ouais, c'est sûr, pour répondre à cette question, moi j'ai vachement bricolé. Et j'avoue que je ne m'attendais pas sur cette route du Rhum. Je pensais que ça allait être une transatlantique où finalement on passe quand même vachement de temps à faire de la performance à barrer, et j'ai passé énormément de temps à bricoler et ou même à adapter ma façon de naviguer, en tout cas par rapport aux dégâts qu'il pouvait y avoir sur le bateau. Et ça a commencé grosso modo jusqu'à Ouessant, tout allait bien, et mon premier gros problème c'était donc le J3, et c'était 2 heures après le Framver. Donc dès la première nuit, dans le petit centre de la dépression entre les deux, j'ai bricolé. Enfin, j'ai passé mon temps, en fait, dès qu'il y avait des transitions, dès qu'il y avait des phases où il fallait essayer de trouver des solutions pour renvoyer le J3 ou pour le rouler ou pour le... Enfin, bref. Et après, il y a eu les appendices, et puis après, il y a eu les lattes, et puis après, il y a eu... Enfin, bon, j'ai eu un sacré paquet de soucis. J'ai passé mon temps... j'avais tout le temps quelque chose à faire. Même là, encore, parce que du coup, le foil est parti, donc on pompait dans le flotteur, parce que j'avais de l'eau, du coup, qui rentrait dans le flotteur. Même dans le dernier bord, j'ai pompé dans le flotteur. Enfin bon, bref, j'ai passé mon temps à bricoler, en fait. Et je m'y attendais pas du tout. C'est comme ça. Vas-y, Anouk, si tu veux, je ferai la... C'est Ado, on va y arriver.
Non, parce qu'avant le départ, il nous avait dit qu'il savait pas ce qu'il ferait dans 4 ans. Mais là, après une victoire comme ça, il peut partir tranquille, entre guillemets, faire autre chose.
Après, peut-être que je vais aller dormir après.
Non, c'est la question de « et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire en navigation ?»
Qu'est-ce qu'on va faire en navigation? Alors, on a un projet que Patrice a tenu au secret, donc je ne dis rien tant qu'il ne me donne pas le feu vert, voilà.
Oui, François, ici, je crois que tu l'as déjà évoqué un petit peu sur le ponton, mais est-ce que tu as envisagé de t'arrêter pour réparer?
Oui, très, très rapidement, mais en fait, quand tu as un problème, à chaque fois, tu te demandes, si ça te met en danger, si tu es dans une situation compliquée, s'il faut s'arrêter éventuellement, ou si tu peux, malgré les dégâts, venir t'arrêter, te mettre en sécurité. Mais en fait, à chaque fois, ces réponses-là, elles étaient assez rapides. Fondamentalement, je n'étais pas en danger, ni pour le bateau, ni pour moi. Et en plus, j'aurais pu m'arrêter, mais on met à peu près 6 mois pour construire un foil, donc c'est un petit peu long. Pareil pour un Safran ou pas loin. Vers un J3, peut-être que ça aurait pu être réparé un peu plus rapidement. Enfin, et encore, je ne savais pas à ce moment. Enfin bref, c'est des dégâts de toute façon qui ne sont pas réparables, quoi. Donc, j'ai pas vraiment envisagé ça à aucun moment.
Question qui s'adresse à vous deux. Comment vous avez vécu les gros soucis de Sébastien Josse et puis notamment d'Armel avec son chavirage? Est-ce que quand vous l'apprenez en mer, ça vous fait lever le pied un peu, ça vous interpelle?
Comment t'as vécu en fin de compte les avaries, que ce soit Josse, que ce soit chavirage, quand tu l'as appris, est-ce que ça a eu une conséquence sur ta navigation?
Sur ma stratégie de route, ouais. Non. J'avais décidé de faire ce trajet-là. Et après, c'est sûr que quand, pour avoir déjà connu d'autres routes du Rhum, je savais qu'il y avait, vu la météo, la moitié des bateaux qui partiraient au tapis. Donc j'ai pas été vraiment étonné. Hein. Je parlais avec François de la route du Rhum 2002 où on était 18 trimarans Orma et il n'y en a que 4 qui ont pu finir la course. Tous les autres c'était ou cassés comme le mien, ou chavirés, ou abandon. Donc il y a eu des éditions vraiment dures. Bon, je dirais que vu la météo, c'était absolument prévisible, quoi. Et après, c'est vrai que les avaries de François, elles, c'était d'autant plus méritoire qu'ils continuent comme ça, sans se plaindre ni rien, parce que c'était déjà des conditions difficiles. Mais alors, avec un bateau qui avait tant d'avaries, c'était encore plus compliqué, encore plus méritoire de sa part.
François ?
Et pour répondre juste à la question sur l'abandon de Seb, Thomas, Armel, moi Seb ça me fait un peu mal au cœur parce que je m'étais vraiment, on s'était pas mal entraîné l'un contre l'autre et je sais que c'était un super bateau qui va vraiment vite et voilà, j'avais bien envie de me tirer la bourre avec Sébastien et donc je me suis dit mince, on va pas, je rêvais, j'imaginais des fois dans des doux rêves arriver bord à bord avec un bateau dans le canal des Saintes. Mais c'était plutôt en volant, j'imaginais ça, mais en fait il s'est passé pas mal de choses entre temps et donc voilà, c'est vrai que quand Seb a cassé son bateau, en plus c'est un beau bateau, ça fait toujours mal au cœur. Et puis après quand le chavirage d'Armel, c'est pareil, enfin on imagine déjà la difficulté qu'a eu toute l'équipe Banque Populaire pour mettre le bateau en état de marche pour être sur le départ de la route du Rhum. Ça fait mal parce que c'est quand même des bateaux qu'on aime, qui sont beaux, qui sont chouettes, qui sont extraordinaires. Et ça fait toujours, même quand c'est des concurrents, ça fait mal au cœur quand les bateaux s'abîment, quoi.
Ouais, François, depuis toujours presque, tu es habitué à toujours tout gagner. Là, tu gagnes pas. Comment tu vas vivre, tu vis ça et comment tu...
Ben voilà, justement. Tu vois, je me dis, j'en ai gagné plein, donc moi, comme ça, je fais autre chose. Mais c'est pas paraître prétentieux de dire ça, donc je vais pas le dire exactement comme ça. Mais en fait, je sais pas du tout. Là, objectivement, je suis vraiment content et je me dis, j'ai fait cette course. Cette course, pour moi, elle aurait pu s'arrêter très tôt. Ça joue pas grand chose. Justement, Sébastien, il a perdu son étrave. Moi, j'ai perdu ma foil. C'était à peu près au même moment, je pense, à quelques minutes près. Et à peu près au même endroit. Donc, moi, la course, elle a pu s'arrêter à la Corogne. Et voilà, ça aurait pas été drôle. Au final, j'arrive jusqu'ici. Je suis ravi d'être en Guadeloupe. Je suis ravi de m'être tiré la bourre, d'avoir vécu tout ce que j'ai pu vivre là sur cette course. Donc je suis super, super content. Alors, c'est sûr que le résultat, t'es deuxième. Mais après tout. Est-ce que c'est vraiment ce que je vais chercher aujourd'hui? Évidemment, je suis là pour essayer de gagner, c'est une évidence. Après, j'en ai gagné des belles courses ces dernières années, donc c'est pas que je veux pas en gagner d'autres. Évidemment, enfin, je ferai tout pour et j'adore ça. Mais je pense qu'il y a plein de belles choses qui sont probablement encore plus importantes. Et finalement, avoir la chance. Et ça, franchement, moi, c'est peut-être d'ailleurs ce que je retiens dans ces dernières années de course large. J'ai quand même la chance de vivre des courses de dingue. Je pense la première, en tout cas, c'est je pense le Vendée. On avait eu quand même une compétition avec Armel qui avait été splendide en plus je l'avais gagné, donc c'était encore mieux. Mais ça, je pense qu'à la fin, quand t'as 90 balais, c'est ce que tu retiens, quoi. C'est finalement c'est les aventures qui sont liées à ça, quoi. Et celle-là, je sais que je m'en souviendrai. Qui est victoire pas victoire, c'est pas grave. Je me souviendrai qu'on s'est tiré la bourre, que c'était top, que j'ai eu peur, que j'ai été tendu à des moments parce que je voyais Francis revenir et c'était assez insupportable. Et voilà, et qu'à la fin, on arrive bord à bord, de nuit, avec des lumières partout. Et ça, c'est quand même... Enfin voilà, c'est des choses qui sont... je pense que tu peux gagner une route du Rhum d'une manière beaucoup plus... pas indifférente, parce que ça reste la route du Rhum et quand tu la gagnes, je pense que c'est assez magique. Mais voilà, cette course-là, elle est belle et je suis ravi. Après, je dis ça, là, peut-être que demain, j'aurai la gueule de bois et je le vivrai mal pendant des années, mais je crois pas. Je pense que c'était vraiment, vraiment chouette et je suis ravi d'être là.
Oui, François,
Est-ce que tu as vécu sur cette transat peut avoir des incidences sur les choix que tu vas avoir à faire sur ton futur bateau?
Tu parles du prochain?
Oui, du prochain.
Ouais. Oui, enfin, il y a pas mal de décisions qui ont déjà été prises, mais c'est vrai que... ouais, je pense d'une manière générale, on va tous... Enfin, cette édition de la Roue du Rhum, on a appris plein de choses. On est en train de vivre une révolution qui est quand même assez extraordinaire dans avec nos bateaux. Il y a plein de choses qui se sont créées. C'est quand même... Enfin, quand on a lancé le projet avec la Massif là, en 2013, il y avait Francis, il y avait Thomas, et c'était tout hein, dans cette catégorie de bateaux. Alors après, les années Route du Rhum, c'était un peu spécial parce que ça a ramené des bateaux sur l'édition de la Route du Rhum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, tout ce qui s'est passé en 5 ans, c'est quand même assez extraordinaire. Et forcément, la Route du Rhum nous a appris plein de choses. Nous, dans l'équipe Massif, on a découvert qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas sur le bateau, alors que au début de la départ de la course, on aurait pensé que ça tiendrait. Donc forcément, on va y réfléchir dès demain pour la préparation du Tour du Monde avec ce même bateau. Et forcément aussi dans la réflexion du prochain bateau. Il y a des choses, on sait, qui fonctionnent. Il y a d'autres choses qui fonctionnent moins bien. Et on va tirer parti de ce que j'ai pu apprendre et voire même de ce qu'on a pu apprendre, enfin, des avaries qu'ont pu avoir les autres bateaux. Ouais.
François, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à Francis, qui est quand même un peu plus âgé que toi, justement, voir un peu l'énergie, la pêche qu'il a, son âge, qu'est-ce que ça t'inspire?
Ça, c'est bien, c'est je me dis, si j'ai la patate comme ça, quand j'aurai un peu plus de 60 ans, 62, c'est ça? Je te rajeunis pas au revis. 62. Et ben, si j'ai, c'est un tout petit peu plus jeune que mes parents. Et mes parents, ils font du bateau, ils sont en pleine forme et ils sont heureux comme tout, mais en effet, ils feraient pas une transatlantique sur un maxi trimaran. Donc c'est probablement parce que la voile maintient en forme. Enfin, ceci dit, quand on voit la course, là, tu vois, tu t'es pris des décibels dans les oreilles. Moi, j'ai pas beaucoup dormi, on a quand même bien tiré sur les machines. Je suis pas sûr que ça soit vraiment optimal pour rester en forme. Je pense qu'on va peut-être un peu trop loin dans chercher dans les limites et on va un peu trop loin dans l'extrême au niveau physique et mental pour que ça soit vraiment bon pour la santé. Enfin, faut pas faire ça trop souvent, je crois. Une fois par an, ça va, mais faut pas en faire trop.
Merci, et voilà pourquoi nous allons inviter les marins un peu de repos en les saluant encore une fois et en les applaudissant d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.